Chapitre 27. Après cette matinée passée avec ma mère, entre composition de parfums et posture de la cigogne, nous sommes allés déjeuner dans un petit restaurant dont j'avais lu le plus grand bien en préparant mon voyage. Il y a souvent eu des silences, que nous compensions en admirant le dressage de nos assiettes, délicieuses en effet, mais dans l'ensemble, je dois avouer que c'était un moment plutôt agréable. Il n'a pas été question de Xavier ni de Meryl, mais de l'instant présent. Je lui ai parlé de Gwenolé, de mon affection pour lui, de son désespoir devant la maladie de sa femme et de la peine qu'il me faisait, mais également d'Alban et de ses talents de comédienne. Il a aussi été question de la mise en vente de mon appartement et du déménagement à prévoir. Ma mère m'a proposé de contacter l'une de ses amies, agent immobilier, pour faciliter les démarches. Elle n'a pas essayé de me convaincre de rester dans ce lieu et je lui en suis reconnaissante. Je sais qu'il me serait beaucoup trop difficile de vivre de nouveau dans cet endroit qui a vu naître et grandir ma petite fille chérie. Alors à quoi bon le conserver? Ce n'est sans doute pas à cette fuite que pensaient les uns et les autres en m'exhortant à aller de l'avant, mais c'est la première décision qui s'est imposée à moi. Sur le quai de la gare, juste avant qu'elle monte dans son train, alors que j'essayais de toutes mes forces de tenir le souvenir de Meryl à distance, ma mère m'a prise dans ses bras et après m'avoir dit qu'elle m'aimait, m'a fait promettre de ne plus rompre le contact. J'ai regardé son train s'éloigner et suis restée pendant de longues minutes sur le quai, les yeux dans le vague, me laissant un peu de temps. Il est déjà plus de 15 heures lorsque je suis de retour dans ma chambre. Est-ce le yoga, ou ces quelques heures passées en compagnie de ma mère? Sans doute un peu des deux, toujours est-il que je me sens bien plus légère. Je m'assois en tailleur sur le lit fait de manière impeccable, avantage non négligeable de séjourner dans un hôtel, et compose le numéro de Sam.
« Allô ?»
répond-elle d'une voix que je devine inquiète.
« Tu m'appelles pour me dire à quel point je suis une mauvaise amie? Je te jure que ta mère ne m'a pas laissé le choix. Elle a menacé de s'enchaîner à un bureau et de commencer une grève de la faim si je ne lui indiquais pas où tu te trouvais, et m'a ensuite fait promettre de ne pas te prévenir de son arrivée contre un an de babysitting pour ma future progéniture. »«
T'es enceinte ?»«
Pas à ma connaissance, non. Mais, dans l'hypothèse où ça m'arriverait, je me suis dit qu'avoir une babysitter de confiance ne serait pas du luxe. »
Malgré moi, j'éclate de rire.
« Ça fait une éternité que je t'ai pas entendu rire. »
remarque Sam.
« Tu ne peux pas savoir comme cela me fait plaisir. Dois-je en déduire que tu n'es pas trop fâchée ?»«
Ça dépend. Si je suis très fâchée, tu m'offres des billets d'avion pour New York ?»«
Ça peut se faire. » »«
Alors, je suis on ne peut plus fâchée. Il n'y a pas plus fâchée que moi sur cette terre en cet instant. Réserve les billets d'avion en date ouverte, ajoutai-je.
« Ça s'est passé comment avec ta mère ?»
Je dirais que ça nous a fait du bien à toutes les deux. J'ai compris un certain nombre de choses sur ma colère et mon autoculpabilisation. Elle a compris qu'elle ne pouvait attendre de moi que je gère ma peine de la même manière qu'elle. Chacune a fait un pas vers l'autre en somme. Merci d'avoir plié devant sa menace de s'enchaîner à un bureau.
Tout le plaisir était pour moi. Bon, et sinon comment ça se passe en Camargue ? De ce que je peux en lire, la région a l'air sympa, avec pas mal de choses à faire.
Franchement, oui. C'est vraiment très sympa.
Tu prévois de revenir quand ?
D'ici quelques jours, je pense. La semaine prochaine, sans doute.
Ça n'a pas l'air de te réjouir.
Si, c'est juste que, disons que je me suis attachée, bien plus que je n'aurais dû, je crois, aux personnes que j'ai rencontrées. Je pense à Gwenolé, à Alban. Et forcément un peu à Frédéric aussi. Lui qui nous a accueillis ce matin, ma mère et moi, avec un grand sourire à l'entrée de la salle de restaurant, ne me tenant nullement rigueur de l'avoir repoussé hier. Et puis je pense à Neige, cette petite boule de poils blanches qui ferait fondre même un billot de bois. Neige, qui curieusement n'est pas sur mon lit, son endroit de prédilection lorsque je suis dans la chambre. Neige que je n'ai pas non plus croisée dans les couloirs en rentrant de la gare. Bizarre. Je parcours rapidement la chambre du regard avant d'apercevoir deux petites pattes qui dépassent sous la porte de la salle de bain. Neige ? Tu boudes ?
Moi, c'est Sam.
Répond mon ami, amusé au bout du fil. Pardon, Sam, j'appelais. Étonnée, et aussi quelque peu inquiète de ne pas obtenir la réaction attendue, je me lève du lit pour me diriger vers la salle de bain et y découvrir Neige étendue sur le sol, visiblement inconsciente.
« Oh mon Dieu, non, Neige !»
criai-je, le combiné toujours à l'oreille.
« Un souci ?»
demande Sam.
« Ça n'a pas l'air d'aller, Roxane ?»«
C'est Neige, je te laisse !» dis-je en raccrochant brusquement et en balançant le téléphone derrière moi sans trop me soucier des dégâts éventuels que peut provoquer son atterrissage. Le corps de la chienne est comme tétanisé. De la bave mousseuse recouvre une partie de ses babines et sa langue pend hors de sa gueule. Je vois soudain le câble d'alimentation du sèche-cheveux sectionné gisant à côté d'elle. Et il ne me faut que quelques secondes pour comprendre ce qui a dû se produire. Je suis partie ce matin en laissant par mégarde mon sèche-cheveux branché. Tentation bien trop grande pour un animal aimant grignoter des choses. Je me baisse pour prendre la chienne dans mes mains et colle mon oreille contre son flanc. Il me semble percevoir les faibles bruits de quelques battements de cœur. Elle est encore vivante. Rassérénée, j'attrape l'animal et me précipite hors de ma chambre. « Il y a quelqu'un? S'il vous plaît! J'ai besoin d'aide !» hurlai-je dans le couloir. Personne ne se manifestant, je me dirige vers le hall de l'hôtel dans l'espoir d'y croiser Frédéric. Hélas, sans succès. La réception comme la salle de restaurant sont désertes. À cette heure de la journée, les clients ne sont sans doute pas encore rentrés de leur promenade ou autre occupation. Alban doit être au collège, Gwénolé est certainement en balade, et Frédéric je ne sais où. Il faut que j'emmène la chienne chez un vétérinaire au plus vite. Je suis tentée un instant d'appeler les pompiers, mais le temps qu'ils arrivent et sans certitude qu'ils acceptent de prendre en charge un chien, j'écarte l'idée. Soudain, je me souviens qu'il y a une voiture disponible pour les clients ici. Frédéric nous l'avait proposé à Gwénolé et à moi pour nous rendre à la maison de retraite dans laquelle sa femme est hébergée. La chienne toujours dans les bras, je fais le tour du bar faisant office de réception et repère assez vite sur le tableau en liège un trousseau avec une clé ressemblant à une clé de voiture, dont je me saisis sans trop me poser de questions, pourvu que je ne fasse pas erreur. Je me précipite ensuite à l'extérieur de l'hôtel, contourne le bâtiment pour aller sur le parking. Une voiture s'y trouve en effet garée.
« Au secours ! À l'aide !»
hurlai-je de nouveau au cas où une personne surgirait de nulle part pour nous conduire chez le vétérinaire. Espoir vain. Je déverrouille les portières de la voiture et, soulagé d'avoir trouvé le bon trousseau de clés, installe Neige sur le siège passager avant. « Tiens bon, Neige, tiens bon !» Puis je fais le tour pour m'asseoir sur le siège conducteur. Je place la clé dans le contact. Et là, impossible de démarrer. Impossible. Ma main est saisie d'un tremblement et mon cœur se met à battre de manière désordonnée. Une peur froide m'envahit complètement. Des images de tôles froissées, de carcasses de voitures brouillent ma vision, accompagnées de cris de terreur. Je revois ma fille allongée à l'hôpital, le visage et le corps tuméfiés. C'est si violent que je suis prise d'une brutale envie de vomir. J'ai à peine le temps d'ouvrir la portière pour rendre le contenu de mon repas sur le bitume.
Je ne vais pas pouvoir. J'en suis incapable, je...
En pleurs, je m'apprête à quitter le véhicule quand mon regard se pose sur le corps de la petite chienne. Les images de tôle froissée s'estompent peu à peu pour laisser apparaître celle d'une Neige à la queue frétillante, jappant de joie à l'idée de faire une promenade. Je ferme les yeux, respire longuement et mobilise toute mon énergie pour repousser la panique.
Tu peux y arriver, maman. Je sais que tu peux y arriver.
J'ouvre brusquement les yeux et me retourne vers les sièges arrière, à la recherche de quelque chose de fou, mais il n'y a personne. Cette voix, c'était celle de Meryl. Je prends une grande inspiration puis pose ma main sur la clé, déjà fichée dans le contact. Elle tremble toujours un peu, mais cette fois-ci, je parviens à la tourner pour faire démarrer la voiture. Tout en continuant à inspirer et expirer lentement, je pose ensuite une main sur le volant, l'autre sur le levier de vitesse, afin d'enclencher la marche arrière, et le véhicule s'ébranle. En mode automatique, je passe ensuite une vitesse, pose le pied sur l'accélérateur et quitte le parking. À peine 10 minutes plus tard, je déboule Neige dans les bras chez le vétérinaire le plus proche que j'ai pu trouver à l'aide du GPS. Une secrétaire vient aussitôt à ma rencontre. Je n'ai pas besoin de lui expliquer la situation qu'elle devine sans doute aisément à mon visage ravagé par les larmes. Elle m'invite à la suivre et ouvre la porte d'une salle de soins. Un vétérinaire nous rejoint quasiment dans la foulée, me prend la chienne des mains et la pose sur la table d'examen.
Elle a dû s'électrocuter,
expliquai-je affolée.
J'ai retrouvé le fil d'alimentation de mon sèche-cheveux sectionné. Dites-moi qu'elle va s'en sortir, je vous en supplie, dites-moi que ça va aller,
implorai-je. Gardant son calme, le vétérinaire examine Neige et à l'aide d'un stéthoscope écoute son cœur. Elle est en vie. Son cœur bat faiblement et avec quelques extrasystoles, mais il bat. Je vais lui injecter un décontractant musculaire. Ça devrait la soulager. La décharge n'a pas dû être trop importante, je pense qu'elle devrait se rétablir. Joignant le geste à la parole, il prépare quelque chose qu'il injecte ensuite dans le cou de la chienne.
Voilà.
Il n'y a maintenant rien d'autre à faire qu'attendre. D'ici quelques heures, si tout va bien, elle sera remise sur pattes, m'indique-t-il en caressant le pelage de Neige. Vous l'avez trouvée à temps. Alors que je patiente dans la salle d'attente, rongée par l'inquiétude, résistant à l'envie de me lever toutes les minutes pour demander des nouvelles de ma chienne, je cherche mon téléphone portable dans mon sac à main afin de prévenir Frédéric de l'emprunt de la voiture. J'ai beau fouiller, je ne trouve rien. Au bout de quelques minutes, je me rappelle l'avoir jeté dans ma chambre après avoir raccroché d'avec Sam. J'étais tellement affolée par la découverte de Neige inanimée que je suis partie sans prendre le temps de le ramasser. « S'il vous plaît ?» demandai-je à la secrétaire en m'approchant du comptoir d'accueil.
« Oui ?»«
J'ai oublié mon téléphone et il faudrait que je puisse prévenir que je suis ici. Vous est-il possible d'appeler un hôtel ?»«
Bien sûr, quel est le numéro ?»«
Je ne le connais pas, désolée. Il s'agit de l'hôtel au meilleur ami de l'homme. »
Ah, c'est là où vit la petite Albane. Elle vient régulièrement ici pour les vaccins des chiens qu'ils ont en pension.
Neige est l'une des pensionnaires, elle a choisi ma chambre et... je vais l'adopter.
Si je suis surprise de m'entendre affirmer cela tout haut, cela m'apparaît pourtant comme une évidence. Je me suis trop attachée à cet animal pour m'en séparer. Je regarde la secrétaire composer le numéro tout en espérant que Frédéric n'ait pas signalé le vol de la voiture à la police.
« Allô ? Ici la clinique vétérinaire. J'ai devant moi une personne qui souhaite vous parler. »
indique la secrétaire avant de me tendre le combiné. « Allô, Frédéric ?»«
Roxane, y a un souci ?»«
C'est Neige. Elle s'est électrocutée en mâchouillant le fil de mon sèche-cheveux. Comme il n'y avait personne, j'ai dû emprunter la voiture que vous nous aviez proposée à Gwenolé et à moi. Je voulais vous prévenir, mais dans la précipitation, je suis partie sans mon téléphone. »«
Ne vous inquiétez pas pour la voiture, pas de souci. Comment va Neige ?»«
Son cœur bat. » Le vétérinaire lui a administré un décontractant. Il pense que ça va aller, mais il faut maintenant attendre.
Albane rentre du collège d'ici un quart d'heure. Je la préviens dès qu'elle arrive.
Je suis vraiment désolée.
M'excusai-je en recommençant à pleurer.
C'est ma faute. Si j'avais pas laissé d'appareil branché...
Et si j'avais vérifié, après être venue ce matin pour votre serrure, que la chienne n'était pas dans votre chambre, rien ne serait non plus arrivé. C'est un accident, Roxane. Heureusement, vous avez découvert Neige avant qu'il ne soit trop tard. C'est tout ce qui compte.
Je vais rester ici jusqu'à ce que le vétérinaire me confirme qu'elle est tirée d'affaire.
Vous n'êtes pas obligée, vous savez.
Je veux pas la laisser seule.
D'accord. Prévenez-moi quand vous aurez du nouveau.
Bien entendu. Merci, Frédéric.
Je rends le combiné à la secrétaire afin qu'elle puisse raccrocher.
Je suis certaine que tout va bien se terminer, dit-elle pour me rassurer. Est-ce que vous voulez boire quelque chose en attendant? Je peux vous proposer un café ou un verre d'eau?
Non, rien, merci. Refusai-je poliment de peur que mon estomac ne se soulève une nouvelle fois si j'ingère quoi que ce soit. Il s'est à peine écoulé une demi-heure lorsque débarque Albane dans la clinique, son père dans son sillage.
« Comment va Neige ?»
demande-t-elle tout en se jetant dans mes bras.
« Elle a menacé de faire une grève de la faim si je ne l'emmenais pas immédiatement. »
s'excuse Frédéric. L'adolescente s'entendrait parfaitement avec ma mère, pensai-je aussitôt. « Je n'ai pas vu le vétérinaire depuis que je vous ai eu. » De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. J'ai à peine terminé ma phrase que le vétérinaire sort de la salle de soins et se dirige vers nous. Je me lève instantanément.
« Alors ?»
demandons-nous en chœur. Le sourire du professionnel m'apaise avant même les mots qu'il prononce. « Elle va nettement mieux. Elle a repris conscience, elle est encore un peu secouée, mais je pense qu'elle n'aura pas de séquelles.
Oh, « Je promets de ne plus me sécher les cheveux de toute ma vie, » affirmai-je. « Comme ça, plus de risque d'électrocution. »
Comprenant les implications de cette décision, Albane saute de joie.
« Ça veut dire que tu comptes adopter Neige ?»«
Je crois bien que c'est ce que ça veut dire. Sache que je te tiens pour entièrement responsable de cet attachement canin.
J'assume complètement. Oh, je suis trop contente. Tu vois, papa, ça fonctionne mon système. Les clients ne peuvent pas faire autrement que de tomber amoureux des chiens. »
« C'est malin, vous l'encouragez. » me glisse Frédéric à l'oreille, avant de déposer furtivement une bise sur ma joue.
« Et si on allait fêter cette future adoption au restaurant ?»
propose Alban. « Tu as école demain, jeune fille, je te rappelle. Tu dois avoir ton compte de sommeil si tu veux être en forme. »
« On dormira quand on sera mort, papa. »
rétorque l'adolescente. En un instant, je suis propulsée un an en arrière.
« Maman, tu sais quoi? Tonton m'emmène voir Louane demain en concert. Ça va trop bien. Et en plus, on sera devant. Peut-être que je pourrais lui parler. Tu crois que je pourrais? Ce serait trop bien si je pouvais. »
« Mais il y a école le lendemain, ça va te faire te coucher tard. »
« Tonton, il dit qu'on dormira quand on sera mort. »
« Roxane, ça va ?» s'inquiète Frédéric. « On dirait que vous venez de voir un fantôme, vous êtes toute pâle. » « Pas un fantôme, non. Un ange gardien. » « Alban a raison. On dormira quand on sera mort. J'ai justement une adresse à tester. »
« Ouais, trop cool !»
s'enthousiasme Alban après avoir chassé l'incrédulité de son visage. « Si vous vous y mettez aussi, je m'incline, » dit Frédéric. « Va pour un restaurant ce soir, enfin pour vous deux. Moi, faut que je fasse à manger à mes clients. » Après une petite caresse à Neige et la promesse de venir la chercher demain à la première heure, le vétérinaire préférant malgré tout la garder en observation pour la nuit, nous quittons la clinique. Alors que nous nous dirigeons vers les voitures, Frédéric attrape sa fille par les épaules et glisse sa main libre dans la mienne. Cette fois, je ne me dérobe pas.